RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Vous êtes avec les Gigi, avec les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story aujourd'hui avec Antoine Dierce, le consultant juridique, Fatima Hidbounois, la professeure de français, Bruno Poncé, le cheminot. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Tout à l'heure, on réécoutera le coup de gueule du créateur de contenu. Vous savez, Sam Zira, il était avec les Gigi hier. Il a poussé un coup de gueule. On est revenu sur la galère des voyageurs de la ligne SNCF Paris-Clermont. 8h, hein. Pour descendre jusqu'à Clermont. Et il a poussé un coup de gueule, Sam Zira, vraiment un vrai coup de colère contre la SNCF, lui-même sur la ligne Paris-Montpellier. Puis je voyais qu'il y avait encore des trains avec la chaleur là, qui étaient annulés entre Paris et Toulouse, Paris-Clermont-Ferrand à cause de la canicule, les trains corail. Bref, tu pourras répondre, monsieur le cheminot, au coup de gueule de Sam Zira tout à l'heure à midi moins 20. À 11h20, périscolaire, un animateur relaxé malgré des comportements inappropriés. Alors, les comportements inappropriés, ça n'a pas été suffisamment caractérisé, l'infraction, mais enfin, le parquet avait quand même relevé, dans le dossier du monsieur de 40 ans, il appelait les gamins du CM2 « ma délicieuse »,« mon cœur », »,« mon bébé d'amour », il dessinait des personnages manga sexualisés, il posait la main sur la poitrine des enfants. Ça n'a pas été suffisamment caractérisé, donc il est ressorti relaxé. Voilà, on en parlera tout à l'heure à 11h20. En attendant, on accueille notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
Elle est députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. C'est madame la députée Aurélie Trouvé qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour, ravie d'être avec vous.
La France Insoumise a décidé de préempter la place de la République dimanche pour la fête de la musique, pour transformer cette place de la République qui est habituellement offerte à tous les Parisiens pour la fête de la musique, transformer cela en espèce de concert, meeting, dans le cadre de la campagne présidentielle. Est-ce que c'est pas un peu gonflé?
Oh, déjà, c'est absolument pas privatisé. Je vous remercie pour cette publicité pour un concert gratuit auquel tout le monde est bienvenu. Vous aurez d'ailleurs de super groupes. Et je veux dire aussi que c'est surtout un concert antiraciste. C'est important. Et je veux dire aussi que la musique a toujours été politique. Vous savez, le chant de la Marseillaise, par exemple, était un chant révolutionnaire qui a été d'ailleurs interdit pendant des années.
Il paraît qu'on peut le siffler.
Et puis,
votre collègue
à nouveau, je veux bien que vous me laissiez, voilà, si vous voulez, et qui a été à nouveau autorisé, entre guillemets, chanté en 1830 au moment de la Révolution. Voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que je suis très heureuse qu'il y ait ce concert antiraciste auquel tout le monde est bienvenu, bien au contraire. Donc merci d'en parler d'ailleurs aujourd'hui.
Mais est-ce que vous êtes en train de politiser un rendez-vous populaire qui est devenu la fête de la musique?
Mais d'abord, ça veut dire quoi politiser? C'est faire un concert antiraciste. Parce qu'on confond le politique et le politicien. Politique, ça veut dire qu'il y aura des revendications antiracistes. Et pourquoi antiracistes?
Vous faites campagne, je veux dire. C'est oui. Le jour de la fête de la musique, vous faites un meeting de campagne, quoi.
Non, on fait un meeting antiraciste.
Oui, mais
et vous avez vu d'ailleurs, vous avez vu à quel point la France Insoumise est engagée contre le racisme. D'ailleurs, nous avons fait un énorme rassemblement à l'invitation de Bali Bagayoko il n'y a pas longtemps. Parce que justement, il y a des attaques sans arrêt racistes qui sont insupportables jusqu'aux plus hauts responsables politiques qui parlent par exemple pour Monsieur Retailleau des belles heures de la colonisation, de régression vers les origines ethniques. Bali Bagayoko s'en est pris plein de la tête d'injures racistes absolument abominables. Donc voilà, il est et c'est je dirais des millions de personnes en France qui se sentent insultées à juste titre. Donc il est temps d'agir et ce concert en fait partie. Donc c'est une belle politique pour moi et pour finir. Vive la culture, vive la musique, vive les lettres, vive les musées. Je vois que vous êtes professeur de français. Et la culture aussi, et ben c'est une façon aussi pour nous de dire que la culture, elle est au centre de notre projet politique.
Antoine, tu voulais parler des sifflets de la Marseillaise?
On a parlé de Bali Bakayoko, là, notamment sur les sifflets de la Marseillaise. Moi, j'ai vu un peu votre parcours. Vous faites partie de la LFI intellectuelle. Je vois beaucoup de choses, le temps chez Attac, la famille de militants, etc. Vous êtes probablement une LFI un peu différente, puisque vous parlez de l'histoire de la Marseillaise et Bali Bakayoko veut permettre de la siffler. Alors, est-ce que vous pensez légitime qu'on puisse siffler la Marseillaise?
Attends, déjà, arrêtant de caricaturer, il fait un constat en disant que c'est une réplique populaire pour plein de, pour des gens. Alors d'abord, je vais vous répondre. À chacun, à la fin de chacun de nos meetings, nous chantons la Marseillaise. Et d'ailleurs, pas une personne ne siffle la Marseillaise lorsque nous faisons un meeting.
Et je suis sûr que Jean-Luc Mélenchon ne supporterait pas qu'on siffle la Marseillaise.
Et pour nous, c'est une chanson révolutionnaire et populaire. Pour autant, il y a des Français qui sont extrêmement en colère contre l'État, contre les gouvernements. Et ce moment, le fait de la siffler, en fait, pour eux, c'est une manière de protester contre l'État et les gouvernements. Et c'est un constat que l'on fait. Voilà.
Pour autant, je vous dis,
nous, au contraire, à la France Insoumise, d'ailleurs, nous le disons. La Marseillaise est une chanson de la République. Voilà.
Mais Aurélie, vous savez qu'on a interdit cela. Maintenant, c'est une espèce d'injure publique, un outrage, je cherche le terme. C'est un outrage public de siffler la Marseillaise lors de, par exemple, d'un match de foot. C'est interdit par la loi depuis 2003. Après le match France-Algérie qui avait été sifflé. C'est sifflé, mais elle avait été, incompris en fait, et même pour certains trouver ça scandaleux de siffler à ce moment-là la Marseillaise. Donc c'est un symbole, mais c'est un symbole assez anti-France de siffler la Marseillaise.
Alors moi, je m'étonne que ça fasse autant parler dans les médias, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses encore bien davantage choquantes, excusez-moi. Et quand il y a ces sifflets, quand il y a ces sifflets, c'est aussi une partie de la population qui se dit mais attendez, mais l'État français, c'est aussi celui pour un certain nombre de hauts responsables politiques qui glorifient encore les heures de la colonisation, à commencer par Éric Zemmour. Je sais que vous faisiez partie de son équipe de campagne. À commencer par Monsieur Retailleau, je l'ai dit, et donc il y a une colère aussi parfois qui s'exprime et qui s'exprime à ces moments-là, et c'est un constat, voilà, et c'est une réplique populaire aussi qui est c'est ce dont parle Monsieur Bagayoko.
Dans son entretien, Monsieur Bali Bagayoko, dans l'entretien accordé à l'Opinion, dit ce n'est pas souhaitable, mais si un soulèvement populaire, si le Rassemblement national, une insurrection gagne l'élection, ça se comprendrait. Vous le comprendriez aussi.
Ça se comprendrait de quoi ?
Qu'il y ait une insurrection, un soulèvement populaire après une victoire.
J'espère bien qu'il y aura une résistance populaire citoyenne contre l'extrême droite. Mais
après le résultat.
Bien sûr. Et alors, d'accord. Nous sommes tout le temps en résistance.
Qu'est-ce que vous appelez une résistance citoyenne ?
Non, mais parce que vous comprenez l'insurrection, on prend les armes, etc. Regardez la définition. Nous sommes avec une professeure de français. Donc voilà, l'insurrection, c'est pas forcément prendre des armes, c'est
donc,
de la résistance
si le rassemblement
qui peut être citoyenne et pacifique. Mais sachez que oui, si le Rassemblement national gagne, nous serons en résistance citoyenne, populaire et pacifique. Bien entendu, nous le sommes déjà. Je vais vous le dire. Voilà. Et d'ailleurs, vais vous le dire, si vous voulez éviter que l'extrême droite gagne en 2027, votez Jean-Luc Mélenchon, nous pouvons le faire.
Alors, insurrection, la définition d'insurrection, action de s'insurger, de se soulever contre un pouvoir politique établi en recourant à la violence armée, le mouvement lui-même quand il est de grande ampleur. Voilà.
Aïe. Après, la résistance, elle peut être.
Madame, je vais regarder parce qu'il y a toujours plusieurs définitions dans un larbre, si vous me permettez. Donc, vous en avez pris une et il y en a d'autres.
Bon, ce soir, on reçoit qui à Versailles, Madame Trouvé ?
Eh bien, Monsieur Trump.
Un suprémaciste raciste.
D'ailleurs, raciste d'extrême droite.
Le château de Versailles.
L'Europe est en train de se vassaliser parce que vous avez vu qu'aujourd'hui, et voter un accord absolument abominable qui va nous mettre encore plus pieds et poings liés aux États-Unis, qui dit que par exemple on devra importer massivement des États-Unis par exemple du gaz de schiste plutôt que de chercher la sobriété et la souveraineté économique. Et surtout, vous savez, cet accord avec les États-Unis qui vient d'être voté par l'Europe avec la complicité de la France, d'accord ? Eh bien, ça va être aussi pour empêcher que l'on agisse véritablement contre les GAFAM, contre Google, Facebook et compagnie, qui sont en train d'établir une véritable colonie numérique en France. Donc moi, j'appelle aussi à la résistance contre la vassalisation de la France aux États-Unis et à Trump.
Vous n'utilisez pas Google ?
Mais le problème, c'est surtout que
vous n'utilisez pas ChatGPT.
D'accord, je vais le dire autrement. Est-ce que vous trouvez normal, par exemple, que dans nos grands services publics, eh bien, l'État choisisse de se tourner vers des multinationales américaines dans la commande publique avec notre argent ?
Parce que ce sont les meilleurs.
C'est parce que justement, on ne commande pas. Nous, on a des champions du numérique. Je vais vous dire, Atos.
Il faut protéger nos frontières.
Atos. Parlons d'Atos. Il se trouve, vous savez, avant-hier, j'ai publié mon rapport de la commission d'enquête contre les fonds prédateurs. la finance prédatrice. Notamment, c'est des fonds américains étrangers. Et ben, par exemple, Atos, qui est notre champion numérique, vous savez que c'est notre plus grande entreprise du numérique, eh bien, on l'a vendu fin 2024 à des fonds spéculatifs. Un tiers du capital est dirigé par des fonds spéculatifs. On l'a désossé avec la complicité de l'État, alors qu'avant, il y avait un PDG qui s'appelait Thierry Breton, qu'ensuite, il y a eu Édouard Philippe dans le conseil d'administration. C'était censé être ce qu'on appelle la fille naturelle de l'État. Et aujourd'hui, dans les mains de fonds spéculatifs, vous savez ce qu'il y a ? Il y a impots.gouv.fr, il y a ma carte vitale, il y a tous les services numériques dont vous servez, avec toutes les bases de données, de santé par exemple, il y a de la cybersécurité, il y a des programmes pour l'armée, tout ça c'est dans les mains de fonds spéculatifs, dont des fonds américains. Enfin, excusez-moi, mais on a un réel problème de souveraineté industrielle dans ce pays.
On n'a pas su créer des champions non plus, quoi. C'est, malheureusement, c'est ça aussi. Et ça, on n'a pas su créer les champions.
Et parce qu'on n'a pas mis les moyens.
Industriels. Mais est-ce que c'est à l'État à mettre les moyens? Là, ce sont les privés qui ont créé ces fonds. Les champions du numérique et l'intelligence artificielle sont des privés aussi américains qui continuent d'investir des milliards de dollars. On est largués, on est dépassés.
C'est bien qu'on aurait donné de l'argent public à l'État, enfin, au privé. En fait, moi, je suis dans une boîte qu'on est en train de démanteler pour donner de l'argent public au privé. On fait ça surtout. En fait, à un moment donné, je trouve que si on se résigne à se dire bah de toute façon oui c'est pas le rôle de l'État, bah en fait le rôle de l'État c'est quand même de nous protéger de toutes ces, en fait tu peux pas te plaindre toute la journée que Facebook t'envoie des trucs parce qu'il t'a entendu parler d'une paire de baskets et deux secondes plus tard tu te retrouves sur ton téléphone et après te dire mais non mais c'est pas grave de donner tout aux Américains, enfin il faut qu'on y aille doucement. La semaine dernière à votre place on avait Bruno Le Maire ministre de l'économie. Bah
alors lui, 7 ans de catastrophe.
Non, mais, c'est fou, mais non, mais
lui, il a plié le pays.
Oui, mais fallait tout le temps pour nous expliquer qu'il avait rien fait, qu'il avait des idées.
Qu'il avait fait tout ça vachement bien.
Oui, oui, et puis surtout et, Macron l'a pas
mais
écouté.
Vous savez que d'ailleurs, je l'ai eu en audition dans ma commission d'enquête, c'était une honte. Il nous a dit pendant 2 heures que tout ce qu'il avait fait était absolument génial, que les fonds étrangers, heureusement qu'on les a tirés, mais il faut voir quels fonds on attire, qui sont en train de piller nos entreprises une par une. Voilà ce qui est en train de se passer. Et je vais vous dire, enfin, en fait, un État, normalement, il est censé agir. Il n'est pas censé laisser faire les multinationales, la finance et tout ça, qui sont avec des gens qui... Vous savez combien ça rapporte ?
La finance, c'est mon ennemi, on l'a déjà eu, on y a déjà eu droit. Hein.
Ouais, alors, mais excusez-moi, moi...
C'est le traître aussi.
Vous savez qui a installé Monsieur Macron ? C'est Monsieur Hollande. Donc, je vais vous dire, dans ma commission d'enquête, mon rapport, je remonte tous ces problèmes-là, pas à 2017,
si vous
avant ça. À 2014, quand François Hollande nomme Monsieur Macron. Alors, je vais vous dire, moi, jamais, je pense qu'il ne faut reproduire ce qu'a fait Monsieur Hollande. Et nous, on n'est pas une gauche, François Hollande.
Vous êtes
très
un peu la
gauche Glucksmann.
Vous êtes la madame.
Non plus. On est une vraie gauche qui veut changer les choses.
Vous êtes la madame économie, justement, de la France insoumise. Si vous arrivez au pouvoir, vous allez trouver une situation économique difficile. La croissance est en berne. Les caisses sont vides. Le déficit bat des records. Le déficit commercial également. Et moi, quand je regarde et j'écoute vos propositions, c'est toujours plus de dépenses publiques. Donc, est-ce que vous n'allez pas vous heurter au réel ? Et une fois de plus, la gauche au pouvoir va décevoir parce que vous allez faire des promesses qui vont faire plaisir aux oreilles des électeurs de gauche. Et puis, une fois que vous serez au pouvoir, il va falloir régler une situation qui est très, très compliquée. Et notamment cette situation des dépenses, des finances publiques.
Alors, justement, je vais rebondir sur ce que vous disiez, Monsieur Poncet, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et vous parliez de toutes ces aides distribuées au privé, à des grandes entreprises.
Des aides, c'est des défiscalisations.
Aussi, à 80%. Bah oui, mais ça revient à ça aussi.
Bah non.
211 milliards par an, d'accord ? 211 milliards. Moi, hier matin, j'étais avec les ouvriers de Stellantis Poissy. Ouais. Dernière usine automobile qui va fermer.
Ouais, qui va fermer.
1000 emplois supprimés. Des usines comme ça, il y en a plein. Qui sont en train de plier, de fermer.
Bah oui.
Eh ben, Stellantis touche des centaines de millions d'euros d'aide publique. Comment ça se fait ?
Ce sont des exonérations fiscales. Alors, si vous enlevez ces exonérations fiscales,
comment ça se fait ?
Vous pensez que vous allez aider Stellantis à sauver ses emplois ?
Eh ben, toute aide publique versée à une entreprise devrait être conditionnée au maintien de l'emploi et de la production. Vous savez le ?
Non, mais attendez, je vais être au bout de cette logique parce qu'elle me paraît absurde, mais vous enlevez donc l'exonération fiscale parce que ce sont des exonérations fiscales et vous pensez que Stellantis ira mieux ?
C'est parce qu'il y a un
problème. Et va donc sauver
les emplois. Alors en plus, Stellantis, parlons-en.
Je pense que ça sera encore pire.
Vous savez combien Stellantis paye d'impôts sur les sociétés ? certaines années. Zéro.
Sur son activité en France.
Zéro. Oui,
bah parce que
comme Total.
S'il n'a pas de bénéfice,
Total. Sur 14.
On ne va pas payer de l'impôt quand on a
Total,
pas de bénéfice.
La plupart des années, paye zéro euro d'impôt. Total, alors, est-ce que Total fait zéro? Alors, d'ailleurs, on devait parler de ça.
Non, il est fait en France, tu ne peux pas dire ça. Il nous vend le pétrole.
Alors, je vais vous expliquer pourquoi.
L'activité de Total.
Mais c'est une foutaise. Je vais vous expliquer.
Laissez-la parler.
Je vais vous expliquer. C'est ce que Total a essayé de nous mettre dans la tête. D'abord, vous vous souvenez que Total, rien que depuis 4 mois, là, les prix n'ont pas redescendu. Hein. D'accord ?
Si, là, ils redescendent en ce moment.
Non, pas. Bah, la pompe, très lentement.
Mais ils descendent.
Les cours internationaux ont baissé de 25%. Vous verrez, les prix à la pompe, ils ne vont jamais revenir au niveau d'avant. Et je vais vous dire, Total a fait des milliards de surprofits depuis 4 mois. Des milliards de surprofits. Ils l'ont même publié. J'ai eu le responsable en face de moi sur un plateau. Me dire, oui, en effet, il y a eu des milliards de surprofits, d'accord ? Ils le disent eux-mêmes. OK. Par ailleurs, par exemple, son PDG, M. Pouyanné, hein, vous savez que c'est 10 millions d'euros de revenus chaque année. Ah oui. Hein. Bon, les gens, il y a des gens qui cet été ne vont pas partir en vacances à cause de ça.
D'accord ?
À cause des actionnaires qui s'en mettent plein les poches.
De la guerre.
Grâce. Mais non, enfin, mais ils pouvaient.
Non, allez-y, votre phrase, pardon.
On aurait pu tout à fait bloquer les prix et bloquer les surprofits de Total. Et il est temps que Total rende l'argent aux Français. Il y a eu des milliards
sortis. Si vous arrivez au pouvoir, vous privatisez Total.
Si on arrive au pouvoir, on bloquera les prix et les marges. On bloquera les prix et les marges et on mettra une taxation sur les surprofits.
Vous nationalisez pas Total.
Et une taxe qui permette qu'ils payent réellement en fonction des profits qu'ils font parce que Total fait de l'évasion fiscale.
Les profits sont faits à l'étranger.
La dernière question.
Si Total affiche.
Les profits qui sont faits à l'étranger, c'est interdit.
Si Total affiche 0 euro d'impôt sur les sociétés, vous savez pourquoi ? Parce qu'ils font de l'évasion fiscale. Ils trompent l'État. Et en fait, ils mettent tous leurs profits dans des paradis fiscaux. Donc il est temps d'arrêter avec ça. Alors, et nous l'arrêterons en 2027 avec Mélenchon.
Merci, madame la députée de Saint-Denis. Merci d'avoir été avec nous. Ah ben c'est les temps de parole, on est à la minute près. Attention, avant midi, on vous appelle pour la prime de match. Vous savez que c'est la cagnotte qui grossit à chaque but marqué. Merci les Français qui en ont mis 3 hier, un pour le Sénégal. Il y a 61 000 euros à gagner. On vous appelle avant midi. Si vous envoyez prime par SMS, si vous avez but par SMS au 732-16, vous serez dans la banque de données. On prend un numéro de téléphone, on fait tourner le logiciel, on appelle et c'est peut-être les 61 000 euros pour vous puisqu'il faut donner la somme exacte. Restez bien à l'écoute, on est ensemble jusqu'à midi et le téléphone va sonner.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules, c'est en direct sur RMC, RMC Story. Qui est là aujourd'hui? Bruno Poncet, Antoine Dier, c'est Fatima, Yves Bounois. Je vous propose qu'on s'intéresse là pendant quelques minutes avec vous au 32-16 à la relaxe de cet animateur du périscolaire. Comportement inapproprié, on va évoquer ça, mais surtout, c'est toujours pareil. On a, maintenant vous en avez entendu parler, une infraction pas suffisamment caractérisée. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la première affaire qui a été jugée depuis l'éclatement du scandale du périscolaire à Paris.
Et donc, c'est une affaire qui est suivie, bien sûr, par tous les parents d'élèves parisiens. Et puis, au regard de ce qui s'est passé avec l'affaire Liana, on s'interroge également sur cette justice qui, parfois, passe à côté de ces histoires d'agression sexuelle sur enfants. Et là, c'est vrai qu'on ne comprend pas très bien ce qui s'est passé. L'audience s'était déroulée à huis clos. Une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis avait été requise par le procureur à l'encontre de cet animateur. Puis, finalement, rien de tout ça, puisque l'accusation estime que les faits ne sont pas suffisamment caractérisés. Pourtant, on décrit un homme qui avait coutume de surnommer certains enfants la plus belle, mon cœur, c'est la délicieuse, bon d'accord, mais aussi de leur imposer de longs câlins, de leur raconter des histoires de viol, de prendre l'une des élèves sur ses genoux, de toucher la poitrine d'une autre. Je te ferais des bisous partout si je pouvais, avait-il lancé à l'une des fillettes. Donc tout ça, tous les enfants avaient rapporté tout cela à leurs parents. Les magistrats ont considéré que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'une infraction pénale, en relevant que l'agent municipal aurait néanmoins dû faire l'objet de rappels à l'ordre et d'une formation. Alors donc c'est assez contradictoire, c'est-à-dire qu'on aurait aimé quand même que cet agent soit formé, rappelé à l'ordre, mais on le sanctionne pas. Bref, voilà où on en est.
Fatima,
Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une formation pour savoir que je n'ai pas à dire à mes élèves, par exemple, j'aimerais te faire des bisous partout?
Bah non.
Ça ne me viendrait pas à l'idée.
Moi, j'ai des élèves qui pourraient
de dire ça. Non, ce serait complètement déplacé. Mais dans tous les cas, enfin, quel est le message? C'est ça la question. Quel est le message? Parce que moi, je veux bien qu'on dise aux enfants, parlez, libérons la parole. Ok, première étape. La suite. Qui écoute? Et que va-t-il se passer? Parce que là, admettons, on a réussi à libérer la parole. Que se passe-t-il après? On est dans le cause toujours, en fait. Et c'est encore plus grave, le cause toujours. Parce que c'est dur de parler, déjà, pour un enfant. Parce qu'il a peur. Des fois, quand ça se passe au sein de la famille, il y a déjà les conflits de loyauté en interne. Quand c'est un enfant, il y a le rapport d'autorité, c'est parler. Et des fois, il aime bien cet animateur. Et il est aimé par les autres enfants. Donc déjà, c'est très, très dur de parler. Mais après, si en plus, il ne se passe absolument rien lorsqu'on a parlé, quel est le message?
Là, il relaxe.
Moi, je vais vous dire, j'ai un élève, la dernière fois, on était en sortie, on revenait, et c'est souvent le moment où on discute comme ça. Et c'est un grand, enfin, il est en troisième, et il parle, c'est un élève un peu agité. Et il me dit, mais madame, en vrai, en France, moi, j'ai l'impression qu'on peut un peu tout faire, il se passe jamais rien. Je lui dis, pourquoi tu dis ça? Il dit, bah, c'est vrai, des fois, on regarde dans les informations, on dirait que, il parle toujours des gens qui, ils font des choses graves, et il se passe rien. Et c'est ça, le message. Il se passe des choses, et on n'a pas besoin des stats. Je vous rappelle les stats. On avait rappelé qu'il y avait un enfant toutes les 3 minutes. Mais c'est aussi 6 plaintes sur, il y a très peu de plaintes qui sont, j'ai mal noté le chiffre, mais beaucoup de plaintes sont classées sans, 6 plaintes sur 10 sont classées sans suite. Imaginez, 6 plaintes sur 10. Et la plupart du temps, ça ne veut pas dire il ne s'est rien passé, ça veut dire on ne peut pas le prouver. Mais là, toucher la poitrine, le minimum qu'on attendrait, c'est que cet individu ne puisse plus travailler avec des enfants. C'est le minimum. Parce que c'est pas un enfant, il y en a plusieurs. Vous voyez, c'est complètement incompréhensible pour nous. Donc moi, je suis pour le tsunami sur les sujets de pédocriminalité. Effectivement, peut-être que c'est pas de la prison, mais le minimum, ne plus pouvoir être à proximité des enfants. C'est un peu la base.
Choqué par la décision de justice.
Je partage évidemment l'indignation. J'essaye de comprendre comment on en arrive là. La semaine dernière, j'évoquais l'idéologie dans la formation des magistrats, rechercher la quête de la vérité qui est au cœur de leur formation et ne pas vouloir ni punir ni préserver la société. C'est pas une mission. On doit chercher une quête de vérité. Eh bien, je pense qu'on est là exactement dans ce problème. C'est que les magistrats ont considéré que la vérité n'était pas absolument certaine, que peut-être qu'on pouvait pas qualifier. Je suis pas dans le dossier, j'imagine que c'est ça. Et surtout, deuxième chose, on s'attendait que, vu la situation après l'IANA, vu les mobilisations, on s'attendait à ce que la justice soit plus ferme sur ce genre de sujet. Eh bien, je pense qu'en réalité, ça produit tout l'inverse sur notre justice. Avec des juges qui se disent non. Moi, la société ne m'imposera rien, je suis indépendant. Et donc, je pense qu'il y a peut-être un raisonnement psychologique chez le juge, dans l'ambiance actuelle dans le pays, qui visait à ne surtout pas céder à la pression populaire. Et donc, je n'ai pas d'éléments caractéristiques suffisants, et il libère cette personne. Eh bien, tant qu'on n'aura pas remis dans nos textes le fait qu'il y a une mission pour la justice de protéger la société d'un trouble qui pourrait advenir, eh ben on aura ça. On aura ça. Et donc, il y a urgence à ce que on revoie la formation des magistrats et qu'on mette dans les textes le fait que la justice doit protéger la société en écartant ceux qui peuvent être un danger pour elle.
Bruno ?
Moi, au-delà d'être choqué, ça c'est pas le plus important malheureusement, je ne comprends pas déjà juste un truc factuel qui n'est pas mis à la fin, interdiction d'exercer.
C'est ça.
Voilà. Et moi, je me dis, tu peux nous dire, bon, écoutez, on n'a pas de preuves matérielles, mais tu n'en auras jamais avec des enfants, c'est très, très compliqué. Ou alors, il y a eu un viol et là, malheureusement, tu as les traces. Mais donc, en fait, juste de dire, ben, on a beaucoup de présomptions, on a beaucoup de doutes sur vous, donc on va vous interdire d'aller au contact d'enfants dans votre cadre du travail. Et d'avoir un fichier national qui puisse être consulté par tous les professionnels, par la police, par la justice, de savoir ce monsieur-là, qui est ce monsieur, je veux l'embaucher, bam, d'un seul coup, ça cligne dans tous les sens, le prenez pas, il a eu ça, il a eu ça. Et c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Il y a ça comme sujet. Et un autre sujet aussi, moi, qui m'interpelle beaucoup, j'espère que la famille pourra faire appel déjà. Ça, c'est, j'espère, cool. La famille, et puis peut-être même le parquet qui pourrait faire appel en disant, bah, c'est pas assez. Mais aujourd'hui, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on peut aujourd'hui réclamer de dire aux gens, la parole se libère, allez-y. Parlez, on va vous écouter.
Ouais.
Ben, aujourd'hui, on se rend compte que la police, la gendarmerie, n'écoute pas. Et surtout, va même te punir si tu leur demandes de t'écouter.
Après.
Et après, la justice. La justice, quand t'es en face, elle ne t'écoute pas.
C'est pour ça que
moi, j'étais face à des juges qui, des fois, ne t'écoutaient pas parce que tu te disais, ils en ont rien à foutre. Et surtout, moi, je pensais, pour certains sujets, justice de classe. Et ça, moi, je l'ai senti, je l'ai pris en pleine gueule plusieurs fois. J'étais face à la justice en tant que victime et donc en tant que témoin. Je me suis retrouvé face à une justice qui t'écoutait, mais qui derrière avait une loi appliquée. Et le sujet était tellement facile, c'était très simple. Mais non, ce que je vois, l'image de la justice aujourd'hui, que moi je défends tout le temps, parce que je me dis qu'on est dans un état de droit et que la justice doit être défendue, parce que les gens qui la rendent, c'est pas un métier simple, et que des fois, évidemment, ils ont pas, et qu'il peut y avoir des fois, j'ai pas assez de preuves, machin. Mais là, dans les cas des enfants, on va jamais y arriver.
Oui, mais tu parles de justice de classe. Moi, j'ai l'impression que les choses se sont inversées. C'est-à-dire, quand il s'agit de Patrick Bruel, chanteur très connu, et que la plaignante est une animatrice télé très connue, tout d'un coup, il y a une mobilisation sans précédent. 4 juges d'instruction pour l'affaire Patrick Bruel. Bon, très bien. En revanche, quand effectivement il s'agit d'anonymes, de parents d'élèves lambda,
d'enfants,
qui sont pas des enfants de stars, et là, il y a pas 4 juges d'instruction, il y a pas d'instruction, et ça ne va jamais très très loin. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui les choses se sont inversées. Mais tu sais, La Fontaine disait selon
que vous serez
maintenant j'ai l'impression que les puissants, on ne veut pas les louper, et que certains juges veulent surtout pas louper les puissants et montrer. Voyez, on est ferme avec les puissants désormais, tolérance zéro, peut-être parce que pendant longtemps
ils n'ont pas été assez.
Très bien, mais en politique c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on veut se faire du politique, on se sert des... Bon, très bien. Et puis derrière, la justice des anonymes, et je pense à la maman de la petite Rosa, s'était fait entendre dire « Arrêtez d'appeler la gendarmerie toutes les semaines, sinon on va porter plainte contre vous pour harcèlement. »
Tout à l'heure, tu disais... Attends, juste sur ça. Tout à l'heure, tu disais les Parisiens écoutent avec attention. Il n'y a pas que les Parisiens.
Oui.
C'est-à-dire cette histoire-là,
on
parle du périscolaire à Paris, ça concerne tout le périscolaire. Là, tout le monde était horrifié par le nombre d'enfants. Mais sachez que beaucoup d'enfants ne peuvent pas parler parce qu'ils sont trop petits. Ouais. Que les pédocriminels, leur spécialité aussi, c'est de s'attaquer à des gens qui sont en situation de vulnérabilité. Pendant longtemps, on a pensé que le viol, c'était du désir. Le viol, c'est une histoire de prédation.
Et donc, de domination.
Des bébés, par exemple, ou alors des personnes en situation de handicap qui vont avoir du mal à dire et à se confier. Donc, non seulement la parole, elle est en dessous de ce qu'on devrait avoir, mais si l'écoute n'est pas à la hauteur, on va pas s'en sortir. Et pareil sur Internet, on en parle très peu. Sur Internet, il y a des réseaux pédophiles aussi. Moi, je pense qu'on est capable de te vendre une table quand tu fais une recherche table. Pourquoi on n'est pas capable d'aller chercher les pédocriminels quand on connaît les codes avec le code pizza, le code fleur pour savoir qu'on parle de petites filles,
des pizza pour les petits garçons.
Il y a des streamers qui font le taf. Non, il faut donner les moyens à la police aussi de faire
la police des réseaux.
Mais ils n'ont pas les moyens de le faire aussi.
Bonjour Philippe.
C'est des gros réseaux.
Oui.
Hein. C'est pas
Philippe qui est assistant juridique. C'est vrai qu'on est tous étonnés par ce qui est écrit, infraction pas suffisamment caractérisée. Qu'est-ce que vous en dites ?
J'en dis que je confirme, parce que moi c'est mon métier. Je suis adjoint administratif donc au sein d'un tribunal. Et je suis amené... à travers beaucoup de fonctions, à classer des procédures en fonction des décisions des magistrats qui font suite aux plaintes, lorsqu'ils atterrissent sur leur bureau. Et je remarque souvent, dans les procédures, des preuves flagrantes, notamment lorsqu'il s'agit d'atteinte aux biens, d'atteinte aux personnes, d'atteinte physique, d'agression parfois abominable, où on a les photos des victimes, les photos des armes utilisées, les vidéos avec les visages des auteurs. Je remarque souvent ordre du procureur, classement, mention CSS 21, ce qui signifie classement sans suite pour motif 21. Et le motif 21, c'est précisément, je cite, infraction insuffisamment caractérisée.
Et comment vous l'expliquez ?
Je l'explique. Je n'ose pas me l'expliquer, si ce n'est de la pure décision personnelle.
C'est de la gestion de flux aussi. C'est-à-dire qu'il faut gérer.
C'est de la gestion de flux, mais il y a parfois des choses qui sont tellement flagrantes.
C'est de l'idéologie.
Ben, je me demande par moment. Et d'ailleurs, mes collègues autour de moi, on se passe les procédures, on se les montre entre nous. Mes collègues autour de moi pensent un petit peu la même chose. Parfois, on s'arrache les cheveux. On s'arrache les cheveux. Et je pense que ce n'est pas qu'une question de moyens. Il faut arrêter au bout d'un moment de se draper uniquement derrière ce prétexte-là. Ah oui.
Philippe, je vous remercie de nous avoir éclairé de vos précisions. Vous, l'assistant juridique au tribunal, merci d'avoir été avec nous.
Du sentiment de toute puissance, d'impunité, des pédocriminels. Ben voilà. Si vous voulez, c'est la certitude d'être pris ou le sentiment qu'on peut être pris très facilement, qui peut dissuader aussi de passer à l'action. Et là, on a tout l'inverse. On a non seulement, c'est très dur de te prendre. La plupart du temps, c'est du hasard. Hein. C'est comme la photo sous les jupes et on a découvert comme ça pour Madame Pellicot. Là, c'est la même chose. Par hasard, on découvre. Et puis en plus, quand on est pris, il se passe absolument rien. Donc la pédocriminalité a de beaux jours devant elle et nos coups de gueule aussi.
Insuffisamment caractérisé, l'animateur d'accusé d'agression sexuelle relaxé, révoltant, bah oui, 100%. Oui. Voilà, c'est rare hein, qu'on atteigne le 100%. Mais là, vous en avez ras-le-bol, c'est ce qu'on vient de comprendre. Attention, avant midi.
Ça alimente la défiance.
Avant midi, on vous appelle, un prime de match. Il faudra que vous disiez 61 000 euros sont à gagner. Il faudra que vous me donniez la somme. C'est la cagnotte qui est pour vous. Vous avez quelques instants encore pour envoyer but par SMS au 732-16 et être inscrit. Et retenez-le, notez-le, écrivez-le, 61 000 euros. Votre téléphone va sans doute sonner là dans les minutes à venir.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules. 1, 2, 3, 4.
Les GG, les Grandes Gueules en direct sur RMC, RMC Story. Nous sommes avec Bruno Poncet, le cheminot, avec Antoine Dierce, le consultant juridique, avec Fatima Hidbouma, la prof de français. Attention, c'est parti.
Un moment.
Le téléphone va sonner, peut-être gagner la prime de match. Vous savez que c'est 61 000 euros. Il faut donner la somme exacte. Attention, il faut décrocher. Hein. Ah, et me donner la somme.
Allez, réponds.
On laisse combien de sonneries?
Non, mais laissez le plus possible.
Dès que le répondeur sent. Ah. Allô?
Oui, allô, bonjour.
Bonjour, Marien, c'est l'équipe des Grandes Gueules pour la prime de match. C'est Alain Marchal au téléphone.
Oui, Alain Marchal, bonjour. Comment ça va bien?
Ça va, la forme? Est-ce que vous avez la somme? Vous avez la prime de match?
Est-ce que j'ai la prime de match?
Oui. Vous êtes inscrit. Est-ce que vous avez le montant de la prime de match, la somme totale? Est-ce que vous l'avez.
C'est pas 50 000 euros?
Ah non! Aïe, aïe, aïe!
Mais
ah. C'était avec tous les buts qui ont été marqués. Marien, on est à 61 000 euros. C'est raté. Ah, écoutez.
Il n'y a pas un truc de...
Mais non,
il y a pas. C'est comme ça.
C'est comme ça, c'est un peu de match, Marien.
En plus, je vous regarde, je vous écoute tout le temps depuis plus de 20 ans.
Et aujourd'hui. Et là, qu'est-ce que vous faisiez ces dernières minutes? Je travaillais.
Là, je suis parti inscrire ma belle-fille pour de la Zumba pour l'année prochaine.
Ah, ben voilà.
Ça fait cher la Zumba. Vous arrêtez la Zumba, votre belle-fille, Raus, Terminares, la famille, là.
Bon. Mais non!
Mais si! Mais non, c'est pas
61
une blague, Marien.
C'est une blague, j'hallucine.
Vous étiez pas loin, mais c'était pas la bonne somme. Marien, écoutez, merci dans tous les cas de votre fidélité. Ouais, merci d'avoir été avec nous. Parce qu'on rappelle le principe. On est parti de cagnotte de 30 000 euros et 500 euros par but marqué. Il y a eu 31 ou 32 buts qui ont déjà été marqués. Donc on est à 61 000 euros. Marien, tout ce qu'on. Bah écoutez, tant pis pour vous aujourd'hui.
Je vais me pondre.
Il faut se faire inscrire.
Attendez, est-ce qu'on peut pas lui envoyer un t-shirt des GG au moins?
Et on vous envoie. Mince, un t-shirt des GG.
Et vous avez des enfants avec des devoirs en retard, on vous envoie Fatima aussi.
Ça, j'ai pas sûr que ce soit un cadeau, mais bon.
N'importe quoi.
Il voulait vous donner un face devant, on vous envoie Antoine, il fera le père Fouettard. Attends.
Pas de soucis. Non, mais ne changez rien. Vous êtes excellent.
Marien, c'est pas assez loin, mais dans tous les cas, merci de la fidélité. On vous envoie un t-shirt DGG. Il y aura encore un appel, peut-être chez Estelle Denis alors, dans
attends,
Estelle Midi.
On part toujours de 61 000.
61 000, puisqu'ils n'ont pas été gagnés.
Voilà, et donc on rajoutera en fonction des buts
si,
marqués.
Si tout à l'heure, pendant un coup de fil, je ne sais pas, ou chez Estelle, ou chez Jérôme, ou chez Moscato, ce n'est pas gagné, bah, après les matchs, à chaque fois qu'il y aura
chez
un match.
Moscato, ils ne savent pas compter. C'est
et,
ça le problème.
Et des buts, boum, ouais. 500 euros en plus.
Là, on très a... inquiet pour chez Moscato, parce qu'ils ne savent pas compter.
Non, surtout, c'est preuve, c'est comment il va pouvoir dire, parce que 61 000 pour déjà, Vincent, déjà, c'est compliqué
oui,
quand même.
C'est ça.
Comment
non,
il
mais
là,
va faire
pour Marien, c'est terrible.
C'est
parce
trop
que...
d'argent pour Vincent, 61 000, et... t'imagines.
Ouais, non, lui, c'est quoi c'est
61 000.
C'est 10 minutes de son salaire.
C'est une vie pour Vincent Moscato.
C'est 10 minutes de son salaire, Moscato, attends.
Non, mais le pauvre Marien, n'empêche, avant le coup de fil, il allait bien. Là, il va raccrocher, il va avoir. C'est comme s'il les avait perdus.
Toi, tu t'enfonces.
Fatima,
elle est triste pour lui. Je suis triste pour lui.
De toutes les manières, vous pouvez continuer d'envoyer but par SMS au 732-16 pour vous inscrire, être tiré au sort, qu'on vous appelle, comme ça a été le cas de Maria, et là, il faudra donner la somme 61 000 euros. Allez, dernier petit sujet de discussion. Maintenant, on va revenir sur un coup de gueule qui a retenti hier dans les GG, celui de Sam Zira, notre GG et créateur de contenu. C'est la galère des voyageurs du Paris-Clermont, 8 heures pour arriver à destination. Sam Zira a eu un vrai coup de gueule contre la SNCF, on l'écoute.
Sur 10 voyages, j'en ai 8 qui sont arrivés en retard. Et au-delà des retards, pardon, mais avec le prix qu'on paye nos billets, que ce soit la seconde ou la première classe, oui. La saleté, on arrive sur notre siège, il y a des miettes, il y a des pellicules, il reste encore des trucs de sneakers, de Mars, de Skittles, c'est crade, c'est dégueulasse, il n'y a c'est pas vrai. D'hygiène. Et les toilettes, il n'y a jamais le savon, et quand on met le savon, il n'y a pas d'eau, et comment on se nettoie? Comment on enlève le savon après? On est obligé d'aller au wagon-bar pour dire, excusez-moi,
service.
Où est-ce que je peux trouver de l'eau s'il vous plaît? Et j'ai payé combien? 150 balles mon dîner. Ils se foutent de notre gueule. Ils se foutent clairement de notre gueule.
Monsieur Bruno Poncet, qu'as-tu à répondre?
La parole est à la défense.
Déjà,
Jean Castex.
Non, déjà, je suis pas Jean Castex. Mais par contre, ma boîte, je l'aime au-delà de tout parce qu'en fait, elle me nourrit et j'adore cette boîte pour plein de raisons. Et surtout mes collègues, j'aime beaucoup mes collègues. Il y a un sujet, c'est.
Ça, c'est autre chose.
Le premier sujet, c'est qu'effectivement, on a eu une galère sur un Paris-Clermont. Malheureusement, une de plus sur cette ligne-là.
Oui, c'est une ligne quand même voilà. Difficile. Hein.
Et en fait, on a des moyens quand il se passe, par exemple, une avarie lock, on a des locks, une lock de secours dans un endroit. Ça, c'est pas fait parce que la lock était déjà prise ailleurs.
Une locomotive,
excusez-moi. Donc en fait, effectivement, un enclenchement de boucles de rattrapage qui ne marche pas et derrière, tu te retrouves avec ce problème. Après, moi, j'entends Sam Zira, je le connais pas, j'espère que je ferai une émission avec lui, j'aurai deux, trois trucs à lui dire, je pense, tôt ou tard, mais c'est pas un sujet. Le vrai truc.
On dirait une menace, dit comme ça.
C'est pas une menace violente sur ton
point. T'inquiète pas, Sam, on va se croiser.
Ouais, on va se croiser, cousin, et à un moment donné, tu verras, tu vous verras comme tu vous vois tous les autres, mais tu verras, on va discuter. Non, ce que je veux dire, c'est que, il y a sur un sujet où il dit, il a raison, la saleté et l'hygiène. Et moi, je suis désolé. Hein. La saleté et l'hygiène, c'est les gens. Hein. Si t'as des trucs de Mars et des machins qui restent sur ton siège, moi, j'entends que, excuse-moi, mais quand tu passes derrière moi, tu verras, il n'y aura rien. J'ai un sac qui restera et je vais prendre tous mes trucs et je vais les jeter dans la poubelle en me sortant. Donc, à un moment donné, on ne va pas demander non plus à des gens dont c'est le métier.
Surtout qu'en plus, pendant le trajet, il y a toujours quelqu'un qui passe de la SNCF avec des sacs poubelles et en demandant
dans les TGV,
messieurs, dames,
dans les TGV, dans les intercités, c'est un peu plus compliqué.
Il y a la petite poubelle à côté.
Oui, mais souvent, elle est.
Donc, moi, j'entends.
Donc, il a raison, Bruno, c'est aussi une question de comportement.
Voilà, c'est aussi une question de comportement. Et la saleté, alors, j'en parle même pas, mais les pellicules, il est mignon. Peut-être qu'il n'a pas de pellicule avec ses cheveux peroxydés. Mais en attendant, il y a des gens qui ont des pellicules, ça doit rester sur les sièges.
Oh.
Donc, voilà, on y
va. Pas sur le physique.
C'est pas le physique, mais en fait, la peroxydation, on doit te retirer un petit peu les pellicules, j'imagine.
Pas les vêtements.
Vu que ça te brûle les cheveux. Enfin, bon, c'est un sujet technique, ça. Je sais que t'as des soucis depuis ce matin.
Mais il y a beaucoup de gens qui ont des pellicules sans.
Moi aussi, j'en ai. Et moi, je veux pas dire que les gens les ont laissés derrière moi. C'est pas le sujet, en fait, tu vois. Après, il y a un truc. Moi, j'entends que c'est cher et tout. En fait, on est aussi sur des lignes, les intercités, faut jamais oublier. Hein. Après, je peux faire l'historique de ma boîte. Mais on est sur des lignes qui ont été un peu, à un moment donné, un peu abandonnées parce qu'on avait misé sur tout le TGV. Ma boîte, aujourd'hui, a revu en arrière. Elle essaye de remettre des moyens dans ces trains-là. Ça prend du temps. Par exemple, le matériel qui doit être sur le Paris-Clermont et le Paris-Limoges met du temps à arriver. Donc, effectivement, en attendant, les voyageurs peinent. Les prix sont chers parce qu'à un moment donné, on nous a forcé avec l'Europe de faire payer les sillons et à tous les opérateurs, donc il n'y a pas que nous, et les sillons permettent de réparer les rails quand il se passe quoi que ce soit, donc c'est très cher. Enfin, oui, en fait, toutes les histoires, moi je veux bien, on peut faire des coups de gueule sur tout, moi j'entends, hein. Mais à un moment donné, si on fait un truc plus technique, plus, moi je peux faire que ça parce que c'est mon métier, malheureusement, Moi, je suis le premier désolé que le train soit si cher. Moi, je voudrais tellement qu'il soit gratuit et que tout le monde puisse prendre le train comme il veut.
Non, mais est-ce que tu comprends
là, la SNCF a supprimé 14 trains intercités ouais. là pour les deux prochains jours.
Oui, parce que le matériel
à cause de la chaleur.
Mais non, mais c'est un problème parce que les vagues de chaleur vont se reproduire et deviendront finalement banales. Donc, si on peut plus prendre le train,
les nouvelles rames vont arriver modernes.
Si on peut plus prendre le train, si on peut plus aller en cours avec nos enfants, parce qu'il fait trop chaud.
Tu parles tout à l'heure, on parlait tout à l'heure du risque, tu sais, de retirer la fête de la musique, si parce que tu pas de malaise. Oui. En fait, nous, là, on retire les rames parce qu'on a peur que la clim ne fonctionne moins bien ou pas bien. Donc, si tu mets des gens dans 40 degrés, ouais, mais je suis d'accord.
Si on a peur de tout, le pays.
Non, mais c'est pas qu'on a peur de tout, c'est que le matériel doit arriver prochainement. Il a du retard. On a un vrai sujet.
D'accord. Mais c'est pas un reproche que je fais à la SNCF. Je me dis que d'une manière générale et collective, il va falloir qu'on réfléchisse. Il faut qu'on puisse mettre nos enfants, même s'il fait chaud, en cours et que ça soit climatisé, aéré, je ne sais pas, rénové. Et pareil, qu'on puisse prendre un train, même s'il fait chaud. Parce que ça va se reproduire. C'est la deuxième canicule depuis cette année.
Alors, il y a deux choses. Pour ça, oui, c'est systémique, donc il va falloir et pas changer. Parce qu'en 2023, on avait déjà dit ça avec Emmanuel Macron, mais le budget qu'il avait consacré, il l'a remodifié dans l'autre sens, notamment sur les écoles et la conformité, parce qu'il y a plein d'établissements qui ne sont pas aux normes, soit passoires thermiques d'un côté, en tout cas pour le chaud comme pour le froid, ça pose un problème. Non, juste pour revenir, est-ce que tu comprends que ce que dit Sam, c'est pas simplement SNCF bashing, c'est surtout fait. Non, attends,
un peu quand
c'est
même.
Non, mais c'est un client.
Oui, la SNCF se fout de notre gueule, ça pique un peu.
C'est le décalage entre le prix et le service. Les prix augmentent, le service se détériore. C'est ça qu'il pointe du doigt.
Ce que je veux t'expliquer, c'est que le prix aujourd'hui n'est pas uniquement fixé par la SNCF. Il est fixé aussi par celui qui gère le réseau. Celui pour gérer le réseau, il a besoin de beaucoup d'argent. Rappelle-toi, l'État a pris une dette de 40 milliards d'euros qui était une dette du réseau. Donc, à un moment donné, cette dette-là, quand elle est reprise, t'as pas envie qu'elle se refasse.
Merci
donc,
à tous.
Pour que ça se refasse, faut faire les saisons très chères.
Merci les amis. On se retrouve demain avec Flora Guébali, Didier Giraud, Charles Consigny pour de nouvelles discussions, de nouveaux débats autour de ce qui fait notre beau pays. N'oubliez pas la prime de match, 61 000 euros, on peut vous appeler peut-être pendant Estelle Estelle Midi. Il faudra donner la somme, 61 000 euros. Bonjour Estelle.
La somme, sinon salut. Ça rime à rien.
Salut Alain, salut les GG. Nous, on va parler des tests salivaires anti-drogue pour tous les salariés. C'est Sébastien Lecornu qui veut ça, pour ou contre. Est-ce que vous aimeriez que votre patron débarque le matin en salle de réunion et ils disent test anti-drogue pour tout le monde? Et c'est surtout ce qui risque de nous arriver.
Je suis très inquiet pour l'équipe d'Estelle Midi. Moi.
Non, nous ça va. En revanche, les GG, Non, pas du tout.
Vu l'heure.
Nous, franchement, on est nickel. Nous n'avons rien à nous reprocher.
Mais dis donc, Estelle, t'as quand même Charles Magnin chez toi quand même. Moi, je trouve que les mecs à cheveux longs, souvent, c'est comme dangereux.
Nous préparons un 10 km, donc il est
sans. Ah, il est safe.
Ah, c'est
un incroyable. 10 km de quoi, on ne sait pas.
Incroyable. Et justement, tiens, événement sportif, fête de la musique, est-ce qu'il faut tout annuler en raison de la canicule? Ça, ce sera un débat que nous aurons. Il y a déjà des courses qui ont été annulées. L'Équidène à Paris, c'était un marathon annulé, tournoi de foot annulé, certains tournois de tennis, etc.
Tout le monde à la maison.
Eh oui, mais faire du sport sous 41 degrés, c'est pas
génial.
Forcément fantastique. On parlera de la victoire des Bleus, bien sûr, 3-1 face au Sénégal. Est-ce que vous allez vous enflammer pour cette équipe de France? Est-ce que ça y est, vous avez décidé que la troisième étoile, elle était déjà là?
Prudence.
On est modéré ici.
Les adultes en France ont une nouvelle passion.
Ah.
Les coloriages et les stickers, ça fait un carton, les loisirs créatifs.
Coloriage, ça peut dépendre, mais alors les stickers.
Les mandalas, les stickers, t'avais Panini, moi je fais un album Panini, par exemple. Avec Mathieu Béliard, ce matin, on s'est échangé nos doubles. On fait l'album Panini de la Coupe du Monde.
Non, avec Mathieu Béliard.
Avec Mathieu Béliard,
on s'est échangé. Pas 48 équipes, tu t'en sors pas.
Ça va nous coûter cher.
Tu connais les gens du Pakistan? T'as pris
le numéro 3 de Curaçao.
J'ai plein de joueurs, voilà. Et donc, je fais ça avec mon fils de 18 ans, et Mathieu Béliard fait ça aussi.
Oui, mais à 18 ans, c'est normal. C'est plus tard que c'est.
18 ans, c'est limite.
Nous, on a un sujet sur l'étranglement dans les rapports sexuels. Tu vois un peu quand même la différence.
On va se demander si ces loisirs créatifs pour adultes, si vous trouvez ça génial ou débile. On en parlera à 14h. Dites-nous si vous coloriez, si vous stickez. On vous attend évidemment au 32-16. Et puis, le tu préfères, on n'avait pas eu le temps de le faire. C'était eau aromatisée ou eau nature. Voilà.
Nature.
Oh non,
nature.
La bière.
Nature. Tout le monde nature. Ici, dans les GG, on est nature peinture.
Et on est surtout que eau.
Voilà. 32-16 pour en parler avec Estelle.